11h midi,
ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Le Barça est prêt à acheter Neymar 170 millions d'euros, alors que pour sauver la forêt amazonienne, le G7 a trouvé seulement 20 millions d'euros. Conclusion, à notre époque, on préfère ceux qui mettent le feu au stade plutôt que d'éteindre une forêt qui brûle.
Ouais.
Il nous avait pourtant prévenu, il savait avant tout le monde que les produits ménagers étaient toxiques, c'est pour ça qu'il ne fait jamais le ménage. Mickaël qui regarde.
Bonjour, bonjour.
Contrairement à la plupart des Français au travail, il n'a pas de problème d'absentéisme, mais plutôt de présentéisme. Il veut tout le temps venir dans l'émission, même quand il n'y en a pas. Le boulimique du travail,
c'est
Laurent
Barra. Salut, bonjour, bonjour Anne, bonjour à tous.
Pour rétablir la souveraineté protéinique de la France, comme a demandé Emmanuel Macron, il a décidé d'élever un troupeau de moutons dans son jardin pour ses prochains barbecues, le carnivore Jean-Philippe Vizini.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis.
Et elle n'a pas attendu le réchauffement climatique pour enflammer ce studio. Descente Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Vizini apportera son soutien aux pompiers qui font grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Nous recevrons la chanteuse Isa Ferrer pour son nouvel album XYZ Génération L qui sortira au mois d'octobre. Puis notre invité jusqu'à minuit sera Abdelmalik pour son livre Méchante blessure qui vient de paraître aux éditions Plomb et son spectacle Les Justes au théâtre du Châtelet du 5 au 19 octobre.
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors, on a des enfants dans le studio ce matin. Alors, comment tu t'appelles ?
Farel.
Farel, t'habites à Paris ?
Oui.
Et tu rentres en quelle classe ?
En sixième.
En sixième ? Et toi, le petit, comment tu t'appelles ?
Mathis.
Mathis ? Et toi, tu viens d'où ?
De Lille.
De Lille ? Et là, toi, tu rentres en quelle classe, Mathis ?
En CE2.
En CE2.
L'année dernière, t'avais qui comme maîtresse ?
Madame Legrand Angélique.
L'Orange ?
Madame Legrand Angélique.
Le Grand Angélique.
Elle
était sympa, ou pas ?
Oui.
Et physiquement, elle était jolie ou...
Elle était jolie.
Elle était plus jolie que moi ou moins jolie que moi ?
Il faut dire plus. Réfléchis pas. Il faut te dire. Réfléchis pas.
Elle était plus ou moins jolie que moi ?
Non, dis moins jolie. Nous, on passe l'année ici.
Beaucoup moins jolie, évidemment. Vas-y.
Évidemment,
sinon ça marche pas.
Évidemment.
Voilà. C'est bien, c'est très naturel.
Oui.
Ah mais la vérité,
comment trouver quelqu'un plus belle que vous ? Vas-y. Oh, ça va aller, mais après, elle va passer une bonne journée. Ça veut pas sortir. Hein,
alors maintenant, on va écouter la suite de l'émission, d'accord ? Vous êtes prêts ?
Oui.
T'es au taquet ?
Oui.
Tu sais qui va faire une chronique maintenant ?
Jean-Philippe Vizini. On va vous parler des pompiers.
Bah oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais depuis cet été, les pompiers sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail difficiles, mais ils continuent à travailler quand même. Heureusement d'ailleurs, hein ? Vous imaginez ? Allô les pompiers, il y a ma femme qui est en train d'accoucher, venez vite ! Vous inquiétez pas, on arrive ! Ah super, dans combien de temps ? Dès que Macron nous aura écoutés ! Ah ! Eh ben on n'est pas dans la merde ! Chérie, tu voulais la péridurale ? Va falloir te contenter d'un doliprane ! Heureusement que les pompiers sont là! Imaginez le jour où ils font vraiment grève! Allô les pompiers, il y a ma maison qui brûle! Oui, ben appelez Bernard Arnault, il va vous faire un chèque! Eh, à l'hôpital aussi, les infirmières, les médecins, quand ils font grève, ils continuent à travailler! Heureusement, vous imaginez! T'arrives au bloc opératoire, l'infirmière qui te dit « Détendez-vous, c'est Jean-Claude qui va vous opérer.» Jean-Claude, c'est le chirurgien? Alors non! Le chirurgien est en grève. Jean-Claude, c'est le maître chien. Mais il a un CAP charcutier, donc il a quelques notions pour vous opérer. Allez, détendez-vous, monsieur, je vais vous faire l'anesthésie. Mais vous êtes l'infirmière anesthésiste ? Alors non, l'infirmière anesthésiste est en grève. Moi, je suis Jacqueline de la comptabilité. Mais comme quand je raconte des histoires, apparemment, j'endors tout le monde, c'est pour ça qu'ils m'ont mise là. Heureusement, tout ça n'existe pas, car les pompiers, comme les infirmières et les médecins, quand ils font grève, ils assurent quand même leur mission, que ce soit pour éteindre Notre-Dame qui brûle ou pour sauver le petit bobo de la voisine, ils viennent pour nous sauver, même si ça passe au détriment de leurs revendications qui, pour le coup, elles, sont bien loin d'être sauvées.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et nos trois petits animateurs. Ça va les enfants toujours ?
Oui.
Ça vous plaît ?
Oui.
Alors, deux semaines après s'être fait virer de l'OM, le défenseur Adil Rami a signé dans le club turc de Fenerbahçe. Est-ce que vous êtes déjà fait virer de quelque part ? Est-ce que vous avez retrouvé du travail ensuite, Mickaël ?
Alors moi, je me suis déjà fait virer d'un boulot, mais c'était extrêmement rare. Hein.
Pourquoi ?
Bah parce que les fois où j'ai eu du boulot, bah c'était extrêmement rare hein, aussi. Donc,
Jean-Philippe ?
Avant de travailler à la radio, j'avais un boulot vraiment pas passionnant. Du coup, je passais mon temps à dormir. Et bah du coup, ils m'ont viré.
Ah bon, c'était quoi comme métier ?
J'étais surveillant de baignade.
Vous savez qu'on va faire un jeu, les enfants ?
Voilà. Oui !
Et vous savez comment s'appelle ce jeu ?
Non !
On dirait nous.
Ça s'appelle « Devinez qui je suis ». Dis-le, Mathis.
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. C'est la fin des vacances scolaires, plus que quelques jours pour préparer la rentrée. Vous devrez donc deviner des objets figurant sur la liste des fournitures scolaires. Grâce à Europe 1, tentez de gagner un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-Relais-Château en formule petit déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne. Poursuivez l'été à l'île de la Lagune, l'unique boutique hôtel Thalasso Spa 5 étoiles des Pyrénées orientales, un cœur de verdure bordé par la Méditerranée, montagne à l'horizon, soleil chaleureux, un lieu de villégiature qui préserve votre intimité où chaque endroit est pensé cocooning pour le confort et le plaisir des yeux. Plus d'infos sur www.hotel-île-lagune.com. C'est un beau cadeau ça les enfants ?
Oui !
Et parce que c'est la rentrée, Europe 1 offre aussi aux deux participants un lot de deux cartables et de deux trousses Paul Fox, des cartables solides, légers, ergonomiques, Paul Fox, avec son côté réversible grâce à son velcro, un cartable, deux possibilités, plus de détails sur le site www.paul-fox.com. Alors on joue d'abord avec Émilie. Bonjour Émilie !
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Alors vous avez 37 ans, vous êtes diététicienne, vous habitez à Cruas dans le 07.
Oui.
Et là vous revenez. Et vous êtes la maman d'un petit garçon.
D'un petit garçon, Antonin, qui va rentrer en CE2 comme le petit garçon qui a parlé juste avant.
Et lui ça se passe bien, vous avez fait la liste des fournitures, tout ça ?
Oui, tout est prêt, il adore l'école, il est ravi d'y retourner lundi.
Ah bah ça c'est rare.
Quel faillot, c'est pas vrai.
Et vous les
On
enfants
On a bien profité des vacances.
Les enfants, vous adorez l'école vous ?
Oui.
Ah, bah bien, ça fait plaisir. Vous prenez la liste 1, la liste 2, Émilie ?
Je vais prendre la liste 1.
La liste 1, et vous jouez avec qui ?
Avec Jean-Philippe.
Ah oui,
excellent choix.
Alors, ouais. Il faut deviner des fournitures scolaires, ça ne devrait pas être trop difficile.
J'ai pas été souvent à l'école.
Le
problème, il est là.
Il y a que des trucs que j'ai jamais
non,
vu.
Non, quand même.
Je vais
le maximum de fournitures à deviner en 40 secondes. Attention, top chrono.
C'est le truc qu'on met sur le dos pour mettre les cahiers. Ouais. Ça, c'est pour faire un angle droit. Il y a une règle, mais il y a aussi l'autre. Ouais. Ça, c'est un truc pour faire un rond. Hein. On fait un rond avec un.
Un compas.
Là, c'est un truc, on met des feuilles dedans et il y a des trucs pour les
attaquer. Un capteur.
Ouais, ça, c'est quand on veut la pointe du truc, là, pour le.
Arrête de dire truc.
Ben non, mais sinon, je dis le mot.
Non.
Pour
alors.
Bon, ouais, c'est le truc, on écrit avec une craie une craie. On écrit
une ardoise.
Ouais, ça, c'est pour mettre deux feuilles en même temps avec un truc en fer. Ça.
Une plastique
Ouais, bon, avec un pinceau, on met de la...
Peinture.
Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon non, bon, c'est pas hyper dur, arrêtez de dire truc, on doit
mettre... Mais non, dire... mais dire taille-crayon...
C'est une chose, c'est un objet,
Taille-crayon, moi... Si
oui, c'est vrai, faut arrêter de dire truc.
Taille-crayon, c'était
Taille-crayon, je voulais dire c'est un truc pour tailler les crayons, mais à ce moment-là, vous ne l'aurez pas refusé.
Ah oui, non, ça, je ne l'aurais pas accepté. Vous n'avez pas trouvé...
Une agrafeuse, c'est un truc pour agrafer deux feuilles ensemble.
Non, vous n'avez pas trouvé taille-crayon agrafeuse, mais vous avez... 6 bonnes réponses,
c'est
un très bon score.
Chouette.
On va voir comment se débrouille Julien. Bonjour Julien.
Bonjour, bonjour Anne, bonjour à tous.
Bonjour Julien.
Julien, vous avez 39 ans, vous êtes psychologue, vous habitez à Blois.
C'est tout moi.
c'est tout vous.
Ah oui, non, ça c'est le psychologue, il répond jamais oui. Il fait toujours une phrase, c'est tout moi, effectivement.
Vous êtes psychologue pour qui ? Pour les enfants, les adultes, les...
Les adultes.
Ah, les adultes ? Ah oui, bah faudrait peut-être que j'y aille, moi.
Oui. Ah oui, il faut aller à Blois. Voilà. À Blois, mais bon. Il faut y aller, Anne.
Et ça, vous avez des résultats sur les gens ?
J'espère, oui, j'espère.
Le mec, non, je suis super mauvais.
Oui. Alors, vous avez une phobie, Julien, ce sont les chauves-souris ?
Oui.
Bah, faut aller voir un psychologue.
On a dû vous le dire.
Oui, bien sûr, mais. Bon,
mais vous avez des choses.
Très explicables.
J'ai très peur de ça, moi.
Vous habitez dans une grotte ?
Non, heureusement, non.
Vous avez des chauves-souris dans votre maison ?
Non, pas plus que ça.
Comment on peut avoir peur d'un truc qu'on ne croise pas, en fait ?
Moi, j'en ai déjà vu, moi ça aussi. Fait très, très peur.
C'est des chauves-souris ?
Très peur de ça. Oh là là, oui. Moi, j'avais, à la campagne, il y avait une porte avec un trou, il y avait des chauves-souris qui sortaient. Ah, là, là, là. Elles étaient dans la porte.
On a l'impression vraiment de mieux vous connaître.
C'est vrai.
Tout s'explique.
Alors, comme vous avez deux enfants, vous devez vous y connaître en fourniture scolaire. Julien, vous êtes prêt à jouer ?
Oui, je suis prêt.
Vous jouez avec qui ?
Avec Mickaël.
Ok. Tant pis. Alors, Mickaël, il n'a pas d'enfant, il ne connaît rien au fourniture scolaire. Il n'a pas beaucoup été à l'école.
Ça ne va pas vous aider beaucoup, là.
Attention, top chrono.
Ça sert à ranger des stylos.
Une trousse.
Ça sert à calculer un angle. C'est comme une règle, ça sert à calculer un angle.
Une équerre.
Non, c'est pas grave. Non, quand on a écrit quelque chose, on prend ça pour effacer.
Un effaceur.
Non. Quand on a écrit avec
une
un
gomme.
Crayon, voilà. C'est un ensemble de feuilles reliées par une agrafe et qui nous permettent de noter des choses. Ça s'appelle
un cahier.
Voilà. Pour mettre entre les feuilles dans un classeur, on met
des intercalaires.
Voilà. Le truc qu'on efface avec la gomme, on l'a écrit avec un
crayon de papier.
Voilà. Un truc pour noter des rendez-vous tout au long de la journée.
Un agenda.
Yes.
Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous êtes ex-écho.
Il dit beaucoup de trucs aussi. Hein.
Oui. Dis-moi un truc que toi.
Oui moi, maintenant, on va dire que pour te deviner un objet, c'est interdit de dire truc, on entendra un bip.
Moins 1.
C'est interdit de dire truc.
Oui.
C'est quoi ce nouveau truc ?
Le règlement, il change comme ça, à la minute.
Bon, Émilie, Julien, vous êtes prêts ?
Oui.
C'est moi qui vais vous faire deviner le mot qui va vous départager, le premier qui trouve.
Si vous dites truc.
Soyez attentif, elle va essayer de vous faire deviner cahier de texte. D'accord.
Attention, vous êtes prêts ? C'est un instrument de musique qui rentre dans un cartable, ça fait un son qui n'est pas tout. Très bien.
C'est
Julien.
C'est lui. Bravo Julien.
Bravo Julien.
Merci.
Julien, vous partez avec la personne de votre choix pour un séjour de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, relais château en formule petit déjeuner avec 2 soins d'hydrothérapie par personne. Ça va vous changer des travaux dans la maison cet été. Plus d'infos sur www.hotel-île-lagune.com. Et parce que c'est la rentrée, Europe 1 vous offre aussi à tous les deux un lot de 2 cartables et de 2 trousses Paul Fox, des cartables solides, légers, ergonomiques. Infos et descriptions sur www.paul-fox.com. Bon bah écoutez, passez une bonne journée, annoncez ça à votre femme, je pense qu'elle va être très contente de ça, plus les cartables, vous avez une belle rentrée.
Et les trucs super, ouais.
Et merci bravo.
Émilie, on est désolée ?
Non, il n'y a pas de souci, je rejouerai avec plaisir.
Et ben voilà, puisque vous l'avez décidé, vous avez le droit de rejouer dans un mois, d'accord ?
Super.
En attendant, vous avez les cartables, 2 cartables pour un enfant, vous allez pouvoir en vendre un sur internet, c'est intéressant.
Oh non.
Il n'y a pas de petit profit. Hein.
Mais pourquoi, sur le bon coin ?
Il est réversible.
Vous revendez des cadeaux, vous ?
Mais en quel honneur ?
Vous revendez vos cadeaux ?
Bah, des fois, je revends des trucs sur le bon coin.
J'en étais sûr.
Comment vous revendez
des... J'en
pas
étais
des
sûr.
Cadeaux, mais des trucs.
Une fois, j'ai vu marquer un bouquet de fleurs très peu servi.
Vous revendez des cadeaux qu'on...
T'as jamais vendu des choses sur Internet ?
Non.
Bah non, facile, ça
mais
pas
des cadeaux.
Pas.
Mais c'est pas des cadeaux, je revends
des trucs comptables.
Un canapé, c'est pas un cadeau, j'ai revendu un canapé sur le bon coin.
C'est rare qu'on arrive avec un canapé dans les bras.
Merci d'avoir invité à manger.
Salut Jean-Claude, on n'est pas venu les mains vides. J'espère qu'il y aura de la place pour le placer. Voilà.
Bon, ça suffit. Si vous voulez jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Philippe Bizigny, Ben H, Laurent Barra et notre première invitée, la chanteuse Isa Ferrer, pour son nouvel album XYZ Génération L qui sortira au mois d'octobre. Merci les enfants d'avoir participé. Il faut laisser votre place aux invités.
Merci.
Merci.
Et bon courage pour la rentrée.
Merci.
Salut.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Laurent Barra, Mickaël Quiroga, Ben H, Jean-Philippe Visini. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin une reine de la pop célèbre dans toute l'Europe depuis les années 90. Elle a su traverser les époques aussi sereinement qu'on traverse la rue pour trouver un emploi. Vous pouvez monter la clim dans le studio. Quand elle arrive, elle fait grimper la température. Une tornade d'applaudissements pour la pétillante Isa Ferrer.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour Isa Ferrer.
Bonjour Anne.
Alors, les gens vous ont connue il y a très très longtemps parce que vous étiez l'héroïne de Seconde B.
Oui, et ça fait très longtemps effectivement.
Et après, vous avez fait une carrière dans la musique qui a été un peu chaotique parce que...
Oui, mais je suis toujours là, n'empêche.
Vous avez changé, vous étiez chez Polydor au départ, vous avez changé de maison de disque et vous avez fini par faire votre propre label.
J'ai monté mon propre label, l'Ovarium Productions. Et ça m'a permis déjà de faire des concerts, parce que moi, ce que j'avais envie de faire surtout, c'était « Ok, je chante, mais j'ai envie de chanter dans des salles, devant un vrai public. » Parce que chanteuse de studio, ben non. Et les maisons de disques, c'était pas leur truc. Il fallait vendre des tonnes de disques pour pouvoir accéder à une scène.
Alors, dans votre public, Isa Ferrer, vous avez beaucoup de gays.
Oui.
90%?
Oui, 99%. Allez,
99%. Comment ça se fait?
Je l'explique pas vraiment. Après, je le comprends, parce que peut-être qu'on a une même sensibilité... Un même côté fun, les mêmes centres d'intérêt, je sais pas, on aime les paillettes, la fête. Et en même temps, j'ai pas envie de dire que ça parce que je trouve ça très réducteur. Donc, je sais pas, je pense que c'est une sensibilité commune, effectivement.
Et c'est eux qui viennent vous voir sur scène, qui vous suivent, qui achètent vos albums.
C'est un public génial, fidèle, festif, j'adore. Pour rien au monde, je changerais mon public. Je veux bien l'élargir.
Mais moi, je suis pas gay. Je vous ai regardé dans Seconde B. Et je vous ai écouté dans mes rêves et tout. Je dansais dessus.
Le
97%. C'est moi.
C'est toujours le 1% dans quoi qu'il arrive.
Oui, c'est vrai.
On vous a pas présenté Laurent Barra, le désespéré de l'émission.
Enchanté, Laurent.
Alors, votre album va sortir en octobre. Isa Ferrer, XYZ Génération L.
Oui.
Vous dites que vous avez du mal avec les médias.
C'est pas que j'ai du mal, c'est peut-être eux qui ont du mal avec moi.
Pourquoi ils n'arrivent pas à vous mettre dans une catégorie?
C'est ça, en France, il faut toujours qu'on mette des gens dans des cases, mais pourquoi faire? Donc non, moi je suis, voilà, on me demande mais c'est quel style? D'accord, effectivement, je fais un style de musique, électropop, parce qu'il faut donner des noms sur, pour identifier une musique. Mais en même temps, je fais de la musique, je fais des vraies chansons, ça peut être de la variété, parce que pour moi, dire que je fais de la variété, c'est pas du tout péjoratif. Et puis voilà, donc...
On va écouter un extrait de ce nouvel album.
De la violence, de la vie, de la méfiance qui s'ensuit, des non-sens, des non-dits. Je sortirai grandi. Je sortirai grandi. Je sortirai.
Alors, Laurent Barra a des choses à vous dire, Isa Ferrer.
J'ai hâte.
Eh ben, moi aussi.
Il n'est pas gay, mais il vous adore.
Merci, belle introduction. C'est mis en valeur. Il n'est pas gay, mais il vous adore.
Ben, voilà, c'est fait.
Isa Ferrer, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, je vois dans votre regard toute l'incompréhension liée à ce genre de situation, vous demandant, avec une petite pointe de gêne, est-ce que je connais ce grand brun ténébreux?
Et pas si grand oui,
je ne sais pas vite debout.
Je suis debout.
Après, debout, je comprends mieux.
Arrêtez de rire de tout voir.
Par contre, tu es de taille moyenne, quoi.
Je suis très bien. Tout va bien. Et si oui, comment?
Dis combien tu mesures.
Voilà. Et alors, 1m72.
Ouais, bah, c'est ça.
C'est honorable.
Quand je suis sûr.
Maintenant, dis combien tu mesures sans les chaussures.
Les ténébreux, on garde ça, il n'y a pas de problème.
Je suis ténébreux. Alors, et si oui, comment?
Ténébreux, c'est être brun. Hein.
Je me casse. Allez. Et si oui, comment ai-je pu l'oublier? Rassurez-vous, Isa, nos chemins ne se sont jamais croisés. Et pourtant, vous avez compté dans ma construction d'homme. Nous sommes en 1993. Oui. J'ai 14 ans. Et tout ou presque pour être heureux. À quelques points près, je réussissais mon brevet des collèges. J'ai le duvet soyeux, le cheveu gras, un sourire de fer et l'exomédine transcutanée, cette lotion prescrite par mon dermato, censée éradiquer l'ensemble des boutons qui colonisent mon visage juvénile, commence à fonctionner. J'ai 14 ans et je viens de découvrir l'amour, le vrai. Elle s'appelle Nadia, elle est en seconde B, drôle, pétillante, intelligente, les yeux en amande, sublime, ambitieuse, elle rêve de devenir journaliste. Quand je parle d'elle à mes parents, ils sont presque surpris qu'une jeune femme de cette qualité s'intéresse à moi. C'est très vexant. Et ils me demandent même de l'inviter à manger à la maison. J'invente mille excuses, elle n'est pas dispo, elle a un repas de famille, elle a la varicelle, car bien évidemment, personne ne se doute que derrière ce joli prénom, derrière ce CV parfait, se cache Isa Ferrer. Wow. Voilà. Comédienne de la série justement intitulée Seconde B. Oui, j'ai 14 ans et j'étais déjà le serial loser que vous connaissez tous.
On se refait pas.
Et non, un amoureux transi d'un personnage de télé, de série télé. Mais croyez-le, malgré cet océan de pixels qui nous séparait, je vous ai aimé, j'ai aimé vous aimer, Isa Ferrer, car vous avez beaucoup fait pour les jeunes de ma génération. Déjà au travers de votre personnage, vous parliez de nous, de nos problèmes, vous parliez de drogue, d'éducation, de maladies sexuellement transmissibles. Bon, vu l'intensité de mes histoires d'amour d'adolescent, la seule maladie que je pouvais choper à l'époque, c'était une rhinopharyngite. Mais bon, c'était un peu de nous que vous racontiez tous les soirs. Et pas étonnant que votre nouvel album s'adresse plus particulièrement à ma génération, celle des années 70-80. Cet album qui nous rappelle que vous êtes avant tout une vraie chanteuse, sincère et engagée. Cet album qui a rendu plutôt fier le phobique du temps qui passe que je suis d'avoir réussi son passage de la seconde B à la génération X.
Waouh ! Bravo ! Merci. C'était sublime. On peut refaire ?
On le refait quand vous voulez.
Merci Isa Ferrer d'être passée nous voir. On rappelle votre nouvel album XYZ Génération L qui va sortir en octobre prochain. Vous avez des scènes de prévues ?
Oui, j'ai une scène de prévue, d'ailleurs trois dates je pense, au mois de janvier. Mais on aura toutes les infos sur mon site isaferrer.com.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Merci Isa Ferrer. Dans un instant, notre invité jusqu'à midi sera Abdelmalik, qui vient nous parler de son livre Méchante blessure, qui vient de paraître aux éditions Plomb, et de son spectacle Les Justes au théâtre du Châtelet du 5 au 19 octobre.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Laurent Barra, oui. Mickaël Quiroga, Ben Hache, Jean-Philippe Bisigny. Et notre invité aujourd'hui qui est une des figures incontournables du hip-hop français, artiste touche à tout, poète et amoureux des mots. Il vient nous parler de son roman Méchante blessure qui est sorti cet été et du spectacle Jeune Noir à l'épée en tournée dans toute la France. Merci d'accueillir Abdelmalik qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Alors, je suis heureuse de vous recevoir. On vous a déjà reçu en avril. Ça fait donc deux fois qu'on se voit en trois mois. C'est plus que n'importe quel homme avec qui j'ai eu un rencard cette année.
Elle la veut.
Il y a quelque chose.
Non, mais c'est une blague, bien sûr. Oui. Alors, vous venez parler de...
Mais on ne sait jamais.
Vous venez parler de votre nouveau livre, Abdelmalik, Méchante blessure. Vous trouvez qu'il y a des bonnes blessures ?
Vous avez 4 heures. Hein. C'est noté. Hein. Par contre, ça compte pour le bac. Hein.
Oui, il y a des bonnes blessures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est de dire que... On peut construire après quand même. Après des blessures. Ouais. Et quelque part, c'est ce que je dis d'une certaine manière dans le livre, c'est que finalement, est-ce qu'on serait pas le résultat de traumatismes, de blessures bien plus ou moins bien soignées, plus
oui, ou mais moins c'est ça le problème, c'est si les blessures sont pas soignées, on
c'est
s'effondre.
C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème.
Comment soigner ces blessures ?
Ben
Dan Roumanoff, finissez votre phrase. Parce
que... Il faut d'une certaine manière revenir aux fondamentaux, au commencement, et essayer peut-être de voir ces blessures, de les voir droit, de voir qu'elles existent et de voir comment on peut faire en sorte de les dépasser finalement.
Il y a un très beau passage dans le livre où vous parlez du couple de vos parents, mm-hmm. qui est très émouvant au moment où ils sont encore ensemble. Vous dites que vous avez du mal à vous rappeler de cette image-là.
Uh-huh. Mais c'est marrant parce que bon, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup.
Oui,
mais ce n'est pas
peu.
Moi.
Oui, d'accord.
Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.
Rufus était un rappeur plutôt célèbre dans le milieu, une véritable star dans sa région, mais la vie qu'il avait menée jusque-là n'était pas des plus simples. Drogue, rivalité entre rappeurs, appartenant à différents gangs et relations familiales toxiques.
Ah non, il parle de moi, en fait. Non,
c'est le
ça. Il y a plein d'histoires qui peuvent se ressembler, mais ça, c'est une sorte de toute façon, mon idée quand j'ai écrit ça, c'était
une
sorte d'avatar. Quelqu'un,
oui, ouais, voilà.
Quelqu'un qui me ressemble un peu, mais qui n'est pas vraiment moi. Et c'est intéressant de raconter par un autre prisme. Du coup, on peut peut-être aller plus loin. Je pense que je suis allé plus loin dans...
Non mais là, je me voyais, âgée de 4 ans, dans une longue ruelle étroite, tenant d'une main ma mère et de l'autre mon père. C'était plutôt sommaire au départ. Pourtant, chaque fois que je revenais mentalement à la charge, le souvenir était plus précis. L'image était moins vaporeuse et reprenait place clairement sur ce trottoir, si particulier, la dénivellation à peine perceptible, dans cette rue strasbourgeoise que nous foulions si joyeusement. Je voyais également tous les détails des chaussures de mes parents, ainsi que les chaussettes blanches de mon père et les collants couleur chair de ma mère. J'entendais avec précision la percussion. Plus j'approfondissais le mouvement de ma pensée, plus des images précédemment ignorées se faisaient jour. Mmh. Donc là, c'est bien le souvenir de vos parents ensemble, vous, Abdelmalik.
Ça ressemble.
Et vous avez
eu. Non, mais parce que la réalité, c'est que vraiment, je me posais... Il y a plein de questions que je me pose rapport à moi, mais que je pense qu'ils sont des questionnements...
universels.
C'est universel. La notion de filiation, la notion de finitude, le fait de savoir que les choses ont une fin, et notamment là, les parents de mon personnage, donc on sait qu'ils vont se séparer. Et de se dire que c'est étonnant des gens qui ont pu s'aimer si fort à un moment et finalement la vie fait qu'à un moment donné ils se séparent et il y a des enfants qui restent et comment eux le vivent dans leur propre ensuite rapport à l'amour, leur rapport affectif, leur rapport à l'autre, etc., etc. C'est ça qui m'intéressait en fait, de dire que comment les actions d'un être ou d'être vont avoir des répercussions sur d'autres êtres. Et c'est assez intéressant et je parle de...
Mais là vous parlez quand même de cette histoire de votre père qui quitte votre mère avec 6 enfants sans moyens, et vous dites, moins d'une année après cet événement, mon père allait quitter ma mère et notre monde avec ses éblouissantes habitudes, c'est ça pour mes frères et moi-même. J'allais comprendre plus tard que ce qui était vrai pour un être était vrai pour une famille et pour un peuple tout entier.
Ouais. Mais encore une fois, il se trouve qu'il y a des similitudes avec moi-même, mais c'est mon personnage. Non, mais c'est important.
Qui a exactement la même vie que vous. Mais...
Non,
parce que Abdelmanik, ne cherchez pas. Elle a croisé Schwarzenegger, elle l'a appelé Monsieur Terminator.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, l'idée de ce roman, c'est, je le porte depuis une dizaine d'années. J'avais, en fait, il y a cet auteur donc, qui nous a quittés récemment, qui est François Weyerganz, qui avait écrit « Trois jours chez ma mère », où il parlait de, il avait cet avatar qui était lui, aussi, mais pas vraiment lui. Et je m'étais dit, mais ça serait intéressant un jour d'écrire un roman, c'est moi, mais c'est pas vraiment moi. Je raconte des histoires aussi qui sont arrivées à des proches, mais aussi à moi, etc. etc. C'est intéressant parce que du coup, on explore, on va peut-être dans des zones.
Vous n'auriez pas été autrement.
Exactement.
Il y a moins de pudeur.
Vraiment. Mais...
Et votre famille a lu ce livre ?
Pas tout le monde encore.
J'ai l'impression que je suis au commissariat quand elle dit « C'est toi qui... » Non, c'est pas moi, c'est
non,
quelqu'un
non,
qui
non,
ressemble.
C'est quelqu'un qui ressemble.
Non, mais... Parce que vous...
j'étais chez moi, j'ai rien à voir. Oui, la mobilette, j'étais dessus.
Mais parce que finalement, tous les artistes, tous les auteurs, tous les écrivains, ils se racontent eux-mêmes.
Bien sûr.
Il raconte des histoires. Parce que pour être au plus proche d'un personnage, finalement, il faut parler d'une expérience vécue. Et d'une certaine manière, c'est vrai que partir de soi, ça part aussi, c'est dans l'idée de raconter les choses de l'intérieur.
Donc là, votre personnage meurt, oui. Qui n'est pas vous.
Ben, je suis vivant, je suis devant vous.
Et donc là, vous exprimez votre avis sur la France, ouais. sur toutes ces occasions aussi de...
Ouais, disons que c'était comme si du fait de ne plus, d'une certaine manière, de ne plus faire partie du monde, c'est comme si tout d'un coup, sa vision...
Ça donne une liberté de s'exprimer.
Ouais, disons que ça s'éclaircit. C'est comme s'il voit les choses avec un recul qui est finalement un recul d'importance pour le coup, puisqu'il est mort. Mais il y a cette idée de dire que réfléchir sur les fonds, comment on fait peuple, réfléchir sur ces idées, parler de spiritualité, par exemple, en quoi c'est vital, en quoi c'est essentiel pour un être, parler d'amour, la notion de couple, qu'est-ce que ça signifie,
quoi alors la notion de couple ?
Ben, il faut.
Ah non, lui posez pas la question, elle sait pas.
Vous avez remarqué qu'elle vous a pas interrogé sur c'est quoi faire peuple. Hein. ouais. C'est quoi le couple ?
C'est plus couple, hein.
Non, mais il y a cette idée, en tout cas, rapport à mon personnage et à sa compagne, Rita, il y a cette idée de dire que finalement. Pour comprendre véritablement ce qu'est un couple, c'est de comprendre qu'on est un à deux, en fait. Et qu'à partir du moment où on est dans cette démarche de complémentarité, on comprend finalement qu'on a besoin fondamentalement de l'autre, et ben, y a quelque chose qui fait que ça peut durer, ça peut. Et c'est leur histoire. Et elle s'en rend compte quand il meurt, en fait. Et donc, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, ouais, cette idée de complémentarité, cette idée qu'on est entier, on est un être entier seulement avec l'autre.
C'est beau.
C'est ce qu'il faut que je dise à ma prochaine copine.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Abdelmanik, venu parler de son roman Méchante blessure qui est sorti depuis le 22 août aux éditions Plomb. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Mickaël qui regarde, yes. Ben H. Ouais. Je l'en...
Non. Oui, mais allez-y, non. Vous allez pas me vexer. Elle a oublié mon nom.
Laurent Barra.
Jean-Philippe Vigny.
Vous le voyez souvent.
Bah oui.
Temps j'attendais chocolat.
Parce que je me suis mis à penser à autre chose. Ça arrive.
Oui, ça fait plaisir.
Jean-Philippe Vigny et notre invité Abdelmanik venu parler de son dernier livre, un roman, Méchante blessure. Oui. Alors vous avez un parcours quand même assez incroyable, Abdelmanik. Vous venez donc. Votre père était d'un milieu très très cultivé, journaliste. Mmh. Quand vous dites quand il quitte votre mère, vous dites qu'il était d'une beauté extraordinaire aussi,
et qu'il c'était un bel homme.
Très bel homme, vous dites même.
Très bel homme. Ouais.
Et donc il fait 6 enfants à votre mère. Ouais. Vous rentrez à Strasbourg et il part.
Ouais. Comme ça arrive quelquefois malheureusement.
Et il laisse rien à part ses livres.
Ouais. Et ses livres, ça a été pour moi c'était comme un territoire à conquérir quelque part sans faire de la psychologie de bistrot. C'est que d'une certaine manière c'était la figure de mon père qui était là, les livres là, parce qu'il a laissé ses livres, il a laissé des dettes et il a laissé ses livres là. Et pour moi, le fait de pouvoir lire ces livres, de pouvoir rentrer dans ces livres, ça voulait aussi dire peut-être connaître un peu mon père, mieux le connaître, etc. Et donc voilà, c'est comme ça, mon lien à la culture
commence comme ça. Et votre mère ne l'a jamais critiqué, ouais, ça c'est incroyable quand même. Quelle dignité, elle a travaillé comme une folle, vous dites dans le nettoyage, donc c'était très difficile. Elle était seule avec 6 enfants, elle n'a jamais critiqué cet homme qui l'a abandonné.
C'est beau. Nous, moi je suis l'homme, vraiment, je suis l'homme que je suis par elle véritablement, c'est-à-dire que... cette dignité, son rapport comme ça à la dignité, le fait de ne pas s'abaisser à critiquer quelqu'un et à dire voilà, c'est comme ça, c'est notre vie, ou même notre situation, etc. C'est des choses qu'elle nous a données comme ça en héritage. Ce qui fait que mon rapport au monde, il est véritablement il continue à être influencé par cette femme pour qui la dignité, c'était la chose la plus importante.
Alors, quand vous étiez jeune, vous avez une double vie parce que vous dealiez du shit. Uh-huh. Même ça marchait bien, je crois.
Allez-y. Ça marchait bien. Répondez.
Troisième meilleur vendeur de France.
On est entre nous. C'est pas comme si on était sur une radio de grande écoute. Allez-y, balancez.
Vous allez sur le terre-terre, il y a une rue Abdelmalik.
Donc vous vous fournissez au Maroc. Donc,
et donc vous étiez un très bon vendeur de shit et en même temps excellent à l'école. Ouais. Et vous rameniez des bonnes notes à votre mère qui était très fière de vous mais qui ne savait pas que vous disiez du shit. Et vous racontez même qu'il y a des moments où vous aviez rendez-vous.
La fraude fiscale, alors non, mais complète le dossier là.
Vous aviez rendez-vous et vous lisiez des romans et de la philosophie en attendant de vos rendez-vous. Vous étiez le seul dealer avec un livre de philosophie.
Faut dire que les bonnes notes aussi, c'est parce qu'il ramenait du shit au prof.
qui était complètement défoncé au moment de noter, du coup.
Mais justement, c'est cette vie schizophrénique, ça fait partie des méchantes blessures en réalité. Ce truc où finalement on essaye d'être à l'aise dans tous les milieux dans lesquels on évolue. On évolue et c'est vrai que moi, si j'ai été comme ça, c'est pas tant que j'étais méchant ou je voulais faire du business ou etc. ou quoi que ce soit. C'est qu'on vit quand même dans un monde où l'avoir a pris le pas sur l'être. Ça veut dire qu'en fait, on est par rapport à ce qu'on a. Donc, si moi, étant d'une famille pauvre, dans une cité, il n'y a pas d'argent, eh ben, on fait ce qu'on peut pour dire moi aussi j'existe, moi aussi je suis là. Mais c'est vrai que quand en même temps, et y en a d'autres qui ont fait cette expérience, quand en même temps on lit des auteurs, quand en même temps on lit Camus, quand en même temps on lit Sénèque, quand on lit toutes ces figures-là, à un moment donné, on se dit, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne peut pas éternellement être
dans ce... Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté la délinquance ?
Ouais, je pense que c'est tout ça. C'est, on peut pas fréquenter.
Il y a eu un moment, tout d'un coup, boum, ça s'est arrêté.
Bah, le juge, hein, surtout. Hein.
Non, mais je pense qu'on peut pas, fréquenter sincèrement ces écrivains, ces philosophes, ces intellectuels et continuer à être dans ce paradoxe. Et surtout que c'est des figures. Là, je vous ai parlé par exemple de Camus, de Sénèque. C'est des figures où la chose morale est quelque chose d'important. Et donc, il y avait juste cette idée de cohérence. D'être en cohérence et à un moment donné...
musique est arrivée aussi à ce moment-là.
La musique est arrivée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes proches, beaucoup d'amis qui ont sombré ou sont retrouvés dans les longues peines de prison ou sont morts, etc., etc. C'est des choses qui calment aussi. Et où à un moment donné, on se dit mais quelle est ma place, moi, là-dedans ? Est-ce que si je continue comme ça, je vais évoluer positivement ? Et si je continue comme ça, est-ce que je ne vais pas disparaître ? Etc. On se pose toutes ces questions.
Vous dites que quand vous allez dans les quartiers, des fois, il y a des jeunes qui vous disent que votre parcours les a inspirés.
Jusque récemment, là, il y a quelques jours encore, dans les réseaux sociaux, il y a une jeune fille qui m'a envoyé un mot et qui me dit qu'elle m'avait vu à la télé, elle devait avoir 12, 13 ans, etc. Et que je l'avais marqué. Enfin, ça lui a donné envie de faire quelque chose. Et aujourd'hui, elle est médecin. Et elle me dit, je suis médecin et c'est fabuleux. Et c'est vraiment grâce à vous, etc. Et je trouve ça fabuleux.
Ça, grâce au shit.
Ça, c'est vertu, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis un donneur d'espoir.
Et vous allez dans les quartiers parler ?
J'y vais, bien sûr. Mais pas que dans les quartiers difficiles, partout. Je vais partout. Je vais dans les villages aussi. C'est important de parler des villages. On dit les quartiers, on dit tout ça, mais c'est important. Il y a aussi des villages comme ça qui sont comment dire, qui sont mis à la périphérie ou des gens.
Porteur d'espoir, ça veut dire que qu'importe là où on est né, on peut faire quelque chose, c'est ça?
Ouais, mais je suis pas porteur d'espoir, je suis donneur d'espoir. C'est pas la même chose. Donneur d'espoir, ça veut dire que je peux avoir mes propres difficultés, mes propres doutes, mais j'oublie jamais que finalement la meilleure des choses qu'on puisse faire pour améliorer le monde, c'est s'améliorer soi-même, c'est de continuer quoi qu'il advienne. Et c'est en ce sens-là, donneur d'espoir, ça veut dire dire que les difficultés sont là, on ne nie pas les difficultés.
Et tout ça, c'est dans Méchantes blessures aux éditions Plon.
C'est ça.
On se retrouve dans quelques instants, ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, yes. Laurent Barra, Benha, Jean-Philippe Bizini et notre invité Abdelmalik venu parler de son roman Méchantes blessures qui vient de sortir aux éditions Plon. C'est important pour vous ce roman, Abdelmalik?
Je pense, ouais, c'est très important pour moi. D'abord, c'est mon premier vrai roman, au sens où, évidemment, le personnage me ressemble un peu, etc. Mais c'est
la fiction.
Ouais, c'est de la fiction, vraiment. D'habitude, c'est il y a quand même une part.
Il y avait écrit Qu'Allah bénisse la France, ouais, c'était un essai.
Pour le coup, c'est autobiographique, réellement, où tout est vrai, etc. Mais et donc c'est hyper important pour moi parce que c'est aussi un autre regard, et je pense que la littérature, c'est quelque chose. Comment vous dire ? Je pense que les écrivains de la génération d'avant, ils avaient cette idée de peut-être changer le monde. Et moi, je pense que je fais partie d'une génération d'auteurs, d'écrivains qui pensent qu'il faut sauver le monde. On peut plus, y a plus à changer le monde, mais il faut le sauver. Et finalement, sauver le reste, ce qui reste d'humanité, ce qui reste de possibilité de faire du lien, ce qui reste de se dire que finalement, on a besoin les uns les autres pour être soi, etc.
Mais comment on fait pour déclencher l'humanité chez les autres, alors ?
C'est l'attitude qu'on a nous-mêmes, c'est-à-dire le fait de garder le cap soi tout le temps, d'être cohérent soi tout le temps, de se dire que.
Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui est plein de haine et de violence, vous faites comment, Abdelmalik ?
Ben moi, je parle par
expérience. Parce qu'il y a des gens qui doivent vous agresser aussi. J'imagine que votre réussite suscite des jalousies. Il n'y a pas que des
gens. Ouais, mais ça c'est différent. C'est des gens qui ne connaissent pas, qui sont loin de moi. Mais des gens, si on connaît, si on discute. Les gens comprennent les
on
choses.
On n'a pas le temps de discuter avec tous les gens qui vous aiment pas.
Ben c'est ça. C'est pour ça que tant qu'on ne discute pas, ben ils auront leur vision et il n'y a pas de problème. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que la haine tue. Je le sais vraiment, je l'ai vu. Et ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une métaphore.
Concrètement.
Concrètement. Ce qu'on ne peut pas construire sur la haine. Ça peut, à un moment donné, on peut se sentir un peu soulagé. Mais on ne peut pas changer le monde.
Vous avez réussi, vous, à ne pas haïr votre père qui est parti comme ça.
Bien sûr. Mais par l'exemple de ma mère. En voyant si elle avait cette. Parce que finalement, la personne qui a été abandonnée en premier lieu, c'est elle. C'est elle qui se dit, voilà, je rencontre quelqu'un, je l'aime, on va vivre ensemble, on va vieillir ensemble. Et finalement, elle se retrouve seule avec 6 enfants. Donc si quelqu'un comme ça est capable de ne pas avoir la haine, ou en tout cas de lutter pour ne pas sombrer dans la haine, eh ben, nous autres, on peut bien le faire.
Et votre père, vous l'avez revu ?
Je l'ai revu, ouais.
Et alors, il ne se sentir pas très...
Toujours beau gosse.
Ah, j'avais la haine.
Ouais, on s'est revu. Mais encore une fois, je pense qu'il faut tourner la page. Il faut laisser justement il faut donner la possibilité aux blessures de cicatriser. Et pour ça, je pense que il faut. J'ai même pas envie de dire pardonner parce que pardonner, ça voudrait dire qu'il y a comme un sentiment de supériorité de ma part.
Je me suis jugé avant de pardonner.
Voilà. Ouais, et donc c'est pour ça que j'ai même pas envie d'employer ce mot de pardon. Je pense que à un moment donné, chacun a son destin. Il y a des vies. Il y a des gens qui sont faits pour être ensemble, d'autres qui se séparent, etc. C'est des réalités. Mais juste de se dire, voilà, moi, ma vie, c'est celle-là. Comment je m'accommode avec ça et comment je fais en sorte de quand même pouvoir vivre, continuer à vivre. Voilà, c'est tout.
C'est beau.
Ouais, je suis...
Ah, c'est bien parce que vous nous l'avez calmé. Merci. Hein. Ouais. Merci.
C'est moi qui... Merci pour l'écoute. Merci pour l'écoute.
Alors, Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Abdelmalik.
Très bien.
Ouais. Alors, Abdelmalik, moi, je suis ravi de vous voir. Hein. On connaît votre histoire, bien sûr. Strasbourgeois, vous êtes converti à l'islam. Uh-huh. Alors, moi aussi, il n'y a pas très longtemps, je me posais des questions sur la religion. J'ai même des potes qui m'ont dit, bah, pourquoi pas l'islam ? Uh-huh. Alors, je me suis dit, ça coûte à rien de se renseigner. Hein. Je suis allé voir un imam, j'ai dit bonjour. Il m'a dit, plus de porc, plus de filles faciles, plus de fumettes. Bon, bah, j'ai dit au revoir. On va pas se mentir, j'aime trop le jambon. Hein. Donc, alors Abdelmalik, alors Malik qui veut dire roi, qui est la traduction de votre prénom, Régis, et Abdel qui veut dire serviteur, qui est la traduction de Jean-Pierre.
Oui, alors je sais que c'est pas vrai, mais certaines personnes sont tatillonnes sur les prénoms. J'ai préféré dire Jean-Pierre. Voilà. Abdelmanik, alors on connaît le poète, l'écrivain, le réalisateur, le rappeur. Alors là aussi, attention, il y a rappeur et rappeur. Parce qu'Abdelmalik, c'est un fou, mais c'est un fou. Hein. La dernière fois, au duty free, à l'aéroport, il a croisé MC Solar. Et là, Abdelmalik, il a fait un truc de dingue. Il a payé son duty free, il a dit bonjour MC Solar, il a pris son avion. Je vous l'ai dit, c'est un fou, ce gars. Sérieux. En même temps, la violence, c'est pas son truc. Hein. Sans compter que ça doit être compliqué de se battre avec Abdelmalik, parce qu'en plus, c'est un poète, un intellectuel, un philosophe, il va vouloir discuter. Le temps que tu comprennes ce qu'il te dit, tu sais plus pourquoi tu voulais te battre. Donc, Abdelmalik, vous êtes venu nous voir pour nous parler de méchantes blessures. Votre nouveau roman, Le Pitch, un rappeur français, Camille Noir, meurt à Washington et il nous parle d'outre-tombe. Hein. Il y a des gens à qui ça peut faire peur quand même. Hein. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. Nous parler après sa mort, Bouteflika l'a fait pendant 6 ans, donc ça va. Camille, une fois réduit au silence, il s'ouvre à nous. Il nous parle de la France, des banlieues, des migrants, de l'islamisme, des femmes, du climat, des noirs, de la politique, des médias. Et moi, ça m'a surpris parce que comme beaucoup de gens, moi, je croyais qu'au moment de notre mort, on voyait défiler notre vie, pas le JT de BFM. Alors, il y en a qui se demandent aussi pourquoi dans votre ouvrage, vous faites mourir votre héros à Washington. Alors, il faut savoir que le premier roman d'Abdelmalik, l'action se situait à Strasbourg. Du coup, quand il a fait le film, il a tourné à Strasbourg. Mais quand il tournera le film de Méchantes Blessures, il ira le tourner aux États-Unis. Ça, c'est malin. À mon avis, le prochain roman, ce sera l'histoire d'un rappeur qui a un concert à faire à Bora Bora. À un moment donné, Camille, le personnage principal de votre roman, fait un rêve dans lequel il y a sa famille, mais aussi l'historien d'art Hans-Ulrich Tobrist, il y a Kanye West, il y a l'acteur Emmanuel de Marsimota, il y a Jay-Z, Juliette Gréco, son mari Gérard Joannès. Alors c'est marrant, non mais c'est vrai. Et alors c'est marrant parce que moi aussi, après avoir lu votre livre, j'ai fait un rêve comme ça, complètement barré. J'étais en voiture à Paris, on roulait, dans la voiture il y avait ma famille, Edmond Rostand, Mozart, il y avait Tupac, De Funès, et attends, il y avait un homard géant et François de Rugy. Alors, François de Rugy qui était tout rouge. Une allergie sans doute. Et c'est là que j'ai compris que je rêvais, puisqu'on était à Paris et qu'on roulait. Hein, donc, enfin bref, Méchantes Blessures, c'est le genre de roman qui vous pousse à réfléchir, à vous positionner. Il y a du style, on est pris par l'histoire. Il y a aussi un vrai rebondissement, je tiens à le dire. Page 123, tu sais de quoi je parle. Moi, personnellement, ça m'a vraiment cueilli. Alors soyez certains que pour moi, comme pour beaucoup d'autres, Méchantes Blessures, c'est du lourd. Du très lourd.
Un truc de malade.
Merci Abdelmalik.
Mais c'était un plaisir de partager avec vous Abdelmalik.
Merci de m'avoir reçu. Merci
beaucoup. On rappelle ce roman Méchante Blessure qui vient de sortir aux éditions Plomb. Merci Mickaël Quiroga, Laurent Barra, yes. Ben H, Jean-Philippe Zini. Merci à vous Abdelmalik.
Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.